Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'été approche à grands pas, ce temps du grand repos pour beaucoup, une pause a priori bien moins stressante que le temps de confinement. Alors pour nous aider à souffler, et entre la visite à la famille et les apéros pétanque avec les copains, cette émission pour prendre soin de son intériorité, comme on dit, chercheur de sens ou de Dieu, chrétien pas toujours très convaincu ou refroidi par l'Église, chrétien fervent et assoiffé après cette longue période de désert, cette émission est pour vous, pour que l'été soit un bol d'air jusqu'au bout. 1, 2, 3, respirez. Été 2020, du SPI et du local, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous ce matin pour nous parler de tout cela, Florent Millet, prêtre recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, qui va bientôt nous rejoindre. Dominique Bostine, vous êtes prêtre et responsable du foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède dans Lot-et-Garonne, bonjour.
Bonjour.
Michel Martin Prével, vous êtes prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on va faire du SPI et du local, puisque j'allais dire c'est à la mode, mais c'est une mode, va dire, bien nécessaire. Aller près de chez soi et arrêter de partir à l'autre bout de la planète ou de la France, y compris pour prendre soin de son intériorité. Avec cette, va dire, ce défi pour chacun de vous d'essayer de s'adresser à tous nos auditeurs. Alors, finalement, puisque pour l'instant on n'arrive pas à joindre Florent Millet, on va commencer avec vous, Michel Martin Prével. Et je vais commencer par donner quelques secrets de fabrique aux auditeurs, puisque parmi nos auditeurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, alors c'est peut-être moins le cas pour une émission comme ça, nous avons 20% de nos auditeurs qui sont des messalisants. Alors messalisants dans le jargon, c'est en gros ceux qui vont à la messe tous les dimanches, ou alors qui vont à la messe une fois par mois, c'est 9% des Français, 20% des auditeurs. Alors pour cela, on a choisi de parler de ce pèlerinage de Lourdes. Pour commencer, Michel Martin Prével, est-ce que vous pourriez représenter un petit peu la communauté des Béatitudes, cette communauté, j'ai vu, qui aurait trois piliers, contemplation, communion et mission?
Oui, c'est une communauté quand même assez connue, et qui a connu des hauts et des bas, comme toutes ces jeunes communautés charismatiques, hein, on les appelle comme ça. Alors voilà, cette communauté, elle est très implantée à Blagnac, les gens du diocèse la connaissent bien ici.
Blagnac, c'est donc près de Toulouse, pour ceux qui sont plus loin.
C'est notre maison générale, mais nous avons aussi une maison justement près de Lourdes. Nous avons aussi une petite maison, toute petite aussi, qui est installée à Lourdes même. Et c'est ce qui explique que depuis longtemps, maintenant ça fait plus de 30 ans, la communauté anime un pèlerinage à Lourdes, où il y a eu souvent des milliers de personnes. Actuellement, il faut s'attendre avec cette crise sanitaire que cette année, de fait, on aura certainement moins de monde.
Alors, avant qu'on parle du pèlerinage, si on reste juste sur la communauté des Béatitudes, il faut toujours partir du principe qu'il y en a beaucoup qui ne vous connaissent pas, ou peut-être qui ont des a priori. Contemplation, communion, mission, qu'est-ce que ça veut dire ce trépied un peu? Quelle est, on va dire, la marque de fabrique de votre communauté?
Parce que c'est une communauté où d'abord on s'offre au Seigneur dans la louange, dans la prière, et c'est donc une communauté de type religieux, avec des offices, la messe quotidienne, l'adoration du Saint-Sacrement, qui est le pilier un peu de notre vie personnelle, notre vie aussi communautaire. Donc c'est la contemplation, la vie de prière, la louange, mais c'est aussi la vie fraternelle. Nous sommes en communauté de vie, et nous sommes aussi en communauté en différents états de vie.
Ça veut dire
qu'il y a à la fois des consacrés hommes, des consacrés femmes, il y a des prêtres, il y a aussi des laïcs. Et chacun dans son état de vie constitue ce qu'on appelle comme l'Église, qui rassemble différents états de vie pour être un seul peuple de baptisés.
Vous vivez tous sous le même toit?
On vit sous le même toit, avec quelquefois des laïcs qui vivent à côté de notre monastère. Et puis le troisième élément, c'est la mission, parce que ce ne sont pas des communautés fermées, on n'est pas cloîtrés, loin de là, et donc nous avons à la fois on travaille dans le monde pour certains, nous avons aussi beaucoup d'implications dans les diocèses, dans différents mouvements, et puis aussi une dimension d'évangélisation, ce qu'on appelle aussi la nouvelle évangélisation.
Alors, ce pèlerinage, on va dire, si on s'adresse donc aux messalisants, ceux qui ont l'habitude d'une certaine pratique, peut-être même d'une certaine vie de prière, coup de zoom sur votre pèlerinage, c'est donc du 2 au 16 août à Lourdes.
Au 6, 6.
Pardon, 2, au, excusez-moi, 2, ça ferait un peu long sinon, du 2 au 6. Oui. Déjà, pourquoi Lourdes, en fait? C'est là-bas que vous avez l'habitude chaque année de faire votre pèlerinage?
Oui, parce que de fait, il y a longtemps que ce lieu nous a attirés, comme beaucoup de Français qui connaissent bien ce grand lieu de pèlerinage. C'est un lieu aussi, vous savez, qui a des capacités d'accueil importantes. Et il faut savoir qu'à Lourdes, on attend beaucoup les pèlerins. Ils ne sont pas encore assez nombreux. Donc il faut venir à Lourdes parce que tout est fait pour des questions de barrières, etc. Mais la barrière, ce n'est pas celle des cœurs. Il faut quand même aussi venir dans ce lieu qui reste un grand lieu de grâce. Nous y faisons des pèlerinages tous les ans depuis 32 ans, je crois. Et encore cette année, nous n'avons pas du tout eu l'idée de ne pas faire ce pèlerinage, même si on sera moins nombreux. Et c'est un pèlerinage qui rassemble justement toutes les composantes du peuple de Dieu. Il y a aussi bien des jeunes, et il y a des activités pour eux, des adolescents, il y a bien sûr des familles, on peut venir avec les enfants qui sont pris en charge pendant la journée. Et ce pèlerinage rassemble donc autour d'enseignements.
Alors justement, le programme, Office liturgique, veillée, carrefour, enseignement, expliquez-nous un petit peu ce qu'on y fait pendant ces quelques jours, ces quatre jours.
On entend à la fois la parole de Dieu, on est renouvelé dans sa foi. Il y a aussi la dimension de la liturgie qui est très importante pour nous, une liturgie qui est très soignée, qui veut être belle, et puis donc des belles messes, des temps aussi pour creuser des aspects particuliers qu'on appelle des carrefours. Alors il y a toute une série de carrefours qui recoupent un peu différents aspects de la vie spirituelle.
Vous avez des exemples ?
Par exemple, je vais commencer par un carrefour sur l'Église, surtout en ces temps. On se pose beaucoup de questions sur l'Église en ces temps. C'est important de comprendre pourquoi on dit qu'elle est sainte et immaculée. Vous voyez, c'est un peu en rapport avec l'Immaculée Conception de Lourdes. Il y a donc un carrefour sur ce qu'est l'Église. Il y aura un carrefour sur les couples que je vais moi-même animer. Mon amour, j'ai besoin de tendresse. Il y a aussi un carrefour sur, le corps, la place du corps dans la foi, pour qu'est-ce que c'est que prendre son corps pour louer, danser, guérir. Voilà, des thèmes assez différents. Et puis le thème de la transfiguration qui va être vécu à la fin de ce pèlerinage et qui va être aussi creusé. Aussi une approche de la parole de Dieu. Voilà, toutes ces façons d'aller renouveler sa foi. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ce pèlerinage des béatitudes et qui font un peu comme leur nourriture pour toute l'année ensuite qui suit. C'est dire l'enjeu important que nous sentons dans cette démarche qui s'appelle une démarche de pèlerinage, mais une démarche où on est très saisi par tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend et tout ce que l'on partage.
Alors il y a quelques, on va dire, grands intervenants, Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Pamiers, dans notre région, le Père Étienne Richet de la communauté des Béatitudes, qui est enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, et Claire de l'Eucharistie, pareil de l'Institut catholique de Toulouse. Il y a aussi donc le spectacle Bernadette. Est-ce à dire que ce spectacle a réouvert ses portes?
Alors non, malheureusement, on avait prévu, bien sûr, que tous nos pèlerins puissent aller suivre ce très beau spectacle.
J'ai cru que vous aviez décroché une exception, mais non.
Mais non, malheureusement. Alors bien sûr, eux ont décidé de ne pas le faire du tout cet été, ce qui fait que bien sûr, on l'a retiré de notre programme, c'est remplacé par d'autres choses. Il y aura bien sûr toutes les choses que l'on vit spécialement à Lourdes. Mais alors cette année, en principe, il n'y a pas des processions. Donc c'est remplacé par des belles célébrations dans la grande basilique Saint-Pédis. Et puis voilà, on a l'occasion de dire le chapelet. Il y a aussi des très belles veillées. Des veillées qui sont plus charismatiques, il faudra peut-être expliquer ce mot.
Alors justement, allez, on redonnera donc toutes les informations pratiques pour rejoindre ce pèlerinage donc avec la communauté des Béatitudes donc du 2 au 6 août. On l'a compris, pour tous et donc en partie pour les familles, avec même la possibilité de, on va dire, que chaque enfant ou chaque tranche d'âge soit pris en charge, et Dieu sait si c'est important pour les familles. Si on essaie de s'adresser, on va dire, encore plus largement, Michel, pour donc ces messalisants, ces chrétiens qui ont déjà une certaine pratique, Vous êtes donc une communauté dite charismatique. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que sont ces charismes, bien étranges pour certains, et comment on fait pour rentrer dans cette vie charismatique ?
Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça existe depuis 20 siècles. La vie charismatique, ça consiste, comme on dit, à vivre dans l'Esprit, parce que nous vivons de l'Esprit Saint, c'est lui qui anime toute l'Église, et d'une façon particulière, c'est se laisser faire, se laisser prendre un peu par ce courant, ce souffle de l'Esprit, pour vivre finalement une plus grande confiance en Dieu. Donc c'est pas être un grand mystique complètement séparé du monde, c'est au contraire rester dans ce monde en ayant comme les yeux toujours levés au ciel. C'est vivre, comme on dit, en vue du royaume. Alors, les chrétiens, c'est ça. C'est des gens qui vivent dans ce monde, mais qui ne sont pas de ce monde, dit Jésus. C'est mettre son cœur, ou mettre son cœur tourné vers Dieu, tout en étant parfaitement au cœur de ce monde.
J'ai cru comprendre que parmi les charistes, il y en avait des ordinaires et extraordinaires. Ordinaire, en fait, c'est l'espèce de talent, fait ça qu'on aurait chacun, par exemple,
oui,
pour l'accueil, le chant, l'écoute.
Oui, c'est le fait qu'on est tous débaptisés et que l'Esprit Saint est en nous, en donnant, nous donnant ses grâces, très précisément ses dons. Il y a les fameux 7 dons du Saint-Esprit que nous recevons comme des outils pour que notre vie se tourne vers ce grand bonheur qui nous attend, qui est la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Bon, c'est tout simplement être chrétien en laissant ces dons qui sont en nous se donner tous leurs fruits.
Alors quels sont-ils ces dons ? Donc si c'est pas donc ces dons ordinaires, mais ces dons spirituels, à quoi ressemblent-ils ?
Ben, ce sont ces dons que nous
j'ai
utilisons
vu
de tous,
paroles, prophéties, images, exhortations, de guérison, de
alors
discernement.
Alors ça, c'est plutôt les dons extraordinaires, ces charismes dont parle saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, qui d'une façon particulière peuvent être donnés à certains pour le bien de tous. Alors il y a le don d'enseignement, le don de prophétie, le don de guérison, etc. Ce sont des petits trucs comme ça que le Seigneur nous donne un peu en surplus pour que tous en bénéficient. Donc c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire, c'est aussi donné à n'importe qui, je dirais.
Ah, pour vous c'est pas extraordinaire, mais la guérison, les paroles, les prophéties ou les images qui
oui,
viennent
mais
de
vous
Dieu,
savez,
pour
en
beaucoup,
parlant,
c'est...
on dit quelquefois des choses comme on dit qui touchent l'autre, et c'est de l'ordre d'une prophétie parce que ça le tourne vers ce qu'il attend, ça le tourne vers ce que Dieu attend de lui. C'est ce qu'on appelle aussi une parole de connaissance, et quelquefois ça on le dit sans le savoir, c'est justement ça. Ça montre que l'Esprit Saint travaille de l'un à l'autre entre nous et que l'Esprit Saint est bien au milieu de nous, sinon ça n'est qu'une espèce de vapeur qui ne nous intéresse pas alors qu'il est vraiment présent au milieu de nous.
Alors Michel, imaginons que même si je veux dire, on espère que nombre d'auditeurs vont vous rejoindre à Lourdes, mais pour ceux qui ne vous rejoindraient pas et qui sont intrigués par la vie, cette vie dite charismatique, comment faire des pas cet été, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire déjà en fait chez soi, seul, ou est-ce que la vie charismatique ça ne peut pas se vivre seul?
Ben, je crois que c'est d'abord se remettre à Dieu dans une grande confiance, c'est prendre le temps de le fréquenter. Voilà. Et vous savez, l'Esprit Saint, il est en nous, il demande simplement à être réveillé. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire sa place. Et je crois que ça commence d'abord par la prière. Dans les temps de vacances, on est beaucoup plus disposé pour ça. Et ça peut se faire dans tellement de lieux, mais ça peut se faire aussi dans le secret de sa chambre. C'est donner du temps à Dieu, prendre tous les jours un temps pour lire sa parole. Voilà, ça c'est une base, c'est la vie chrétienne qui s'alimente, parce que on a un portable, il faut le charger. Et notre âme, elle a besoin aussi d'être rechargée de cette façon-là. Donc cette grande confiance que l'on fait en Dieu, qui n'est pas loin de nous, qui cherche à nous rejoindre, alors c'est ça qui finalement tourne le cœur vers ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est de rencontrer ce Dieu qui nous aime, qui nous met en chemin.
Alors si on veut entrer plus spécifiquement dans la vie charismatique, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à louer déjà pour commencer ?
Alors,
est-ce que c'est la porte d'entrée
oui,
en fait
oui,
de la vie charismatique ?
La louange est au cœur de l'Église depuis 20 siècles. C'est ce qui fait qu'on se détourne de soi pour se tourner vers Dieu. Alors ce n'est pas une démarche psychologique, c'est simplement laisser l'Esprit Saint se saisir de notre cœur. Alors il y a des gens qui ont la facilité du chant, ils aiment bien chanter. Voyez bien quand on a quelque chose qui nous réjouit, très naturellement on a envie de chanter, de chantonner. Et c'est un peu ça qui fait que notre âme est prête pour la louange. Et se mettre dans la louange, et ça peut se faire avec des psaumes, avec des chants, avec tout ce qui peut être à notre portée. Et c'est prendre d'abord le primat que Dieu m'aime, que Dieu existe, que Dieu est là. Et que je suis fait pour lui. Et c'est ça qui me remplit de bonheur. La louange, c'est pas parce que tout va bien dans ma vie, c'est parce que Dieu est là et que, comme les Hébreux qui chantaient autour des murailles de Jéricho, hein, parce qu'ils chantaient d'abord la gloire de Dieu, ben les murailles de Jéricho sont tombées.
À quoi faut-il s'attendre si on s'essaye donc à la louange? On peut donc avoir quelque part comme des charismes extraordinaires qui nous sont donnés, si on fait ça par exemple en famille, imaginons.
Oui, mais les charismes, c'est un peu la cerise sur le gâteau.
Ah oui, mais
c'est pas ça.
C'est pour ça que vous êtes venu. Parlez-nous de la cerise.
Alors, la vie charismatique, je redis bien que c'est d'abord...
C'est la pâtisserie que je vous ai proposée.
Oui, mais c'est d'abord être dans la louange. Et de fait, cette façon de prier peut-être plus régulièrement et plus abandonnée, de façon plus abandonnée, de prier le Seigneur, c'est ça qui fait que le Seigneur en fait nous remplit hein, de paroles, qui peut nous remplir de gestes, d'attitudes, qui deviennent charismatiques parce qu'elles portent la grâce aux autres. Voilà. C'est la charis, ça veut dire grâce. Et donc être dans la grâce, c'est être charismatique. C'est pas autre chose. Et donc c'est encore une fois laisser Dieu faire son œuvre en nous. Alors on devient missionnaire, on devient ce que l'on est, et aussi on est capable de compassion, on est capable tout simplement de charité. Parce que le charisme par excellence, c'est la charité, il ne faut pas se tromper.
Michel, voilà. Est-ce que votre légère gêne à expliquer jusqu'au bout la vie charismatique ne tient pas au fait que la vie charismatique, ça ne peut pas se vivre seul, et que ça se vit toujours en église, et que c'est pour d'une certaine manière, qu'il faut vous rejoindre à Lourdes. Alors expliquez-nous ça pour finir.
Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de... que l'on peut garder personnellement, parce qu'on est sauvé ensemble, et de même que l'on prie ensemble. Alors, il y a la vie personnelle, ça c'est très important, j'ai bien dit l'importance de la prière personnelle, mais c'est pour très vite se retrouver aussi avec d'autres. C'est pour ça qu'un chrétien seul, aujourd'hui, c'est un chrétien particulièrement en danger. On ne peut pas rester chrétien, surtout pas avec certaines souffrances ou certaines difficultés, sans avoir le secours de cette vie avec les autres, qui s'appelle tout simplement la vie ecclésiale, la vie communautaire, la vie familiale, parce qu'on est tous dans cette famille de Dieu.
Le pèlerinage des béatitudes, on va dire pour donc les pratiquants ou les fervents, c'est donc la proposition de ce début d'émission. C'est donc du 2 au 6 août, c'est à Lourdes. Si on doit donner un site internet, c'est pèlerbéatitudes avec un S, pèlerbéatitudes, le tout sans accent.org. Et puis là-bas, soyez-en sûrs, vous découvrirez quand même ce que c'est que la vie charismatique, parce que pour Michel Martin-Prével, c'est l'alphabet, c'est classique, mais c'est une grande et belle réalité dans l'Église, et réalité pour tous, comme l'a redit à de nombreuses reprises le pape François, la vie charismatique, c'est pour toute l'Église. On va faire une première pause et puis on va retrouver Dominique Bostine, donc responsable du foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède, qui a l'habitude aussi, comme d'autres, hein, mais en tout cas c'est ce qu'on vous demandera, d'accueillir des pratiquants, on va dire, plus occasionnels ou irréguliers, et qui se tournent entre autres vers une retraite que vous proposez, des retraites fondamentales, retraites vitoses.
Emmanuel Pella.
Été 2020 du SPI et du local, c'est donc le thème de l'émission de ce matin. Avec nous dans cette émission, on y croit, on va réussir à le joindre, Florent Millet, prêtre recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, Dominique Boustine, prêtre responsable du foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède, et Michel-Martin Prével, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes. Alors avec vous Dominique Boustine, on va aller dans le Lot et Garonne, rencontrer donc cette communauté. Donc c'est un foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède. Même question, en pensant à tous ceux, ils sont nombreux en fait, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Redites-nous ce que sont ces foyers de charité, œuvre internationale des foyers de charité.
Voilà, alors nous sommes une communauté de laïcs, hein, consacrés, qui vivent la vie religieuse avec un prêtre aussi, ou parfois plusieurs prêtres. Et le but des communautés de foyers, c'est de pouvoir accueillir ceux qui ont besoin d'avoir un ressourcement spirituel ou bien de retrouver une ossature dans leur vie humaine et spirituelle, bien sûr. Donc on propose des retraites de 5 ou 6 jours, et ces retraites donnent il y a toute une part d'enseignement, une part de vie liturgique aussi, des temps personnels pour la prière. Et les temps d'enseignement sont là pour restructurer, on peut dire, notre vie humaine et spirituelle.
Notre intériorité, oui. Voilà. Et alors, ces foyers de charité, il y en a un peu partout en France, il y en a dans le monde.
Voilà, donc il y en a à peu près 80 dans le monde, et en France, une dizaine. Quand on aime, on ne compte pas, donc je ne connais pas le nombre exact, mais ça va être à peu près ça. Voilà.
Vous êtes le seul dans le sud-ouest, en tout cas, hein.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et donc Notre-Dame de la Cépède, si vous deviez présenter le lieu Notre-Dame de la Cépède, c'est pareil, on peut venir en fait à la fois pour suivre cette retraite, mais aussi parce que le lieu est beau, qu'on a envie un peu de s'aérer.
Tout à fait, oui, donc c'est en pleine nature, bien sûr. Je dirais c'est l'antichambre du paradis. Bon, je ne sais pas si tout le monde me croira en disant ça, mais enfin bon, on peut y croire.
Mais c'est vrai que c'est beau, avec vue sur les vignes, c'est ça?
Voilà, bon, il y a des vignes, effectivement, on est dans des collines ombragées, et puis surtout, on a le calme de la nature. Voilà, les petits oiseaux qu'on entend maintenant à nouveau dans les villes depuis le confinement, que nous on entend habituellement, bien sûr.
C'est votre quotidien. Alors si on essaie de s'adresser donc plus particulièrement donc à tous ces chrétiens pratiquants, donc occasionnels ou irréguliers, qui sont donc une part significative des Français et une part aussi importante de nos auditeurs, près de 30%, on peut aussi se dire que dans ces gens-là, il y a parfois quelques a priori à l'égard de l'Église ou de ces lieux de retraite, et que du coup on peut avoir du mal à franchir un peu le pas. J'ai lu sur votre site que chacun est reçu dans un esprit d'accueil inconditionnel et de respect absolu de sa liberté de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais ça veut dire qu'on accueille tout venant. C'est-à-dire que et chacun, dans cette semaine qui est vécue, chacun recevra la nourriture qui lui convient. Parce que finalement, l'enseignement s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'Évangile, sur les différentes rencontres que Jésus a pu avoir. Et on voit que selon les rencontres, selon les personnalités, les tempéraments, selon ce que vit la personne, il y a toujours la nourriture qui convient. Je dirais donc, nous, en nous glissant dans la parole de Dieu, on s'adapte aussi finalement à tout venant, comme le Seigneur a pu le faire aussi.
Est-ce que ces pratiquants occasionnels ou irréguliers, de fait, ils viennent chez vous, ils toquent à votre porte, ou est-ce qu'ils disent, ils ont du mal parce que justement vous êtes trop, on va dire, trop typé ou trop ecclésial pour eux?
Alors, on a vraiment le reflet de la société française. Je dis pas simplement des pratiquants, mais on a des recommençants, on a des personnes qui viennent du bouddhisme, des personnes qui viennent de l'islam, etc., et qui cherchent vraiment un sens à leur vie. Et c'est au travers des enseignements qui sont proposés. Ils ont entendu dire que ça pouvait faire du bien, même à des personnes qui se sentent très loin de l'Église. Eh bien, et précisément, à la fin d'une semaine, on peut dire qu'il y a un avant et un après. Et c'est eux-mêmes qui témoignent de ce que ça a pu leur apporter.
Alors on va parler d'une retraite en particulier, parce qu'il y a plusieurs propositions. On donnera les coordonnées pour ceux qui, au moins cet été, veulent connaître toutes ces propositions donc dans votre lieu de retraite spirituelle. C'est donc une retraite vitose. Alors expliquez-nous ce que sont ces retraites fondamentales vitose. Ça vaut le coup de préciser ce qu'est vitose déjà pour commencer.
Alors d'abord, je préciserai ce qu'est la retraite.
Oui, vous avez bien raison. Allez, commençons dans ce sens-là.
Je rajouterai Vito, ce qui est un tremplin pour mieux rentrer dans la retraite. Donc la retraite elle-même donne des enseignements. C'est-à-dire, on a besoin de retrouver le sens de sa vie et finalement nous sommes faits pour aimer, comme l'a évoqué le Père Michel tout à l'heure, en évoquant le charisme essentiel. Le charisme essentiel, c'est la charité, c'est l'amour. Et on sent très bien qu'on a du mal à aimer. La petite Thérèse disait « jusqu'à l'infini, j'ai besoin d'aimer ». Donc on est fait pour ça, c'est notre aspiration profonde. Et les enseignements nous aident à trouver les moyens pour rencontrer le Seigneur qui est l'amour. Parce que c'est ça finalement. Vivre une retraite, c'est pas tant recevoir un ensemble d'enseignements dogmatiques. Grâce à Dieu, c'est pas ça qu'on propose. Mais c'est arriver à rencontrer le Seigneur. Quels sont les moyens que le Seigneur nous propose pour mieux le rencontrer, sachant qu'il est lui la source de l'amour et sachant donc qu'il est capable de combler mon cœur, cette aspiration profonde qui est en moi. Il n'y a que lui qui peut me le donner. Donc nous sommes là, les membres de la communauté, les enseignements, les temps liturgiques, voilà, tout ce qui est proposé durant la semaine sont des moyens pour rencontrer le Seigneur. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est la retraite, c'est l'ossature même de la retraite,
donc
la
c'est
dynamique.
Une, c'est une retraite qui a une finalité bien précise, en tout cas.
Ah oui, tout à fait, oui. Et je pense que ça rejoint tout à chacun, voilà, puisqu'on est fait pour l'amour.
Alors ça, c'est la retraite, et donc la touche particulière, en l'occurrence, c'est Vitose. Donc Vitose, c'est donc un médecin chrétien suisse qui a développé donc une forme de thérapie, on peut dire, très particulière. Est-ce
Alors,
que c'est comme ça,
de fait, on peut parler d'une thérapie quand on parle du docteur Vitose. Vitose a constaté que la plupart de ses patients...
Fin 19e, hein, 1863-1925.
Voilà, mais toujours bien actuel, quand on peut dire. Donc, il a constaté que les patients qui souffraient de burn-out, de dépression, etc., en fait, la grosse problématique, c'est parce que le cerveau est devenu terriblement émissif, ce qui fait que la personne était comme écartelée, morcelée intérieurement, bon, voilà, trop lourd fardeau à porter. Et comment faire pour l'en libérer ? Et bien, il s'est rendu compte que le cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Il a une double capacité, émettre ou recevoir. Et ce qui repose le cerveau, c'est précisément de recevoir, d'accueillir. Ça coupe l'émissivité et en même temps, le cerveau se reprend. Et c'est comme ça qu'il a pu guérir ses patients en les aidant à retrouver par des exercices de réceptivité qui permettent à mieux accueillir le monde environnant, et donc à mieux s'accueillir aussi soi-même, ces exercices de réceptivité.
Donc c'est apprendre à vivre au présent et être au contact du réel. Alors si on prend un exemple, voilà. Ça veut dire quoi ? C'est pour arrêter cette surchauffe cérébrale à vous entendre, c'est
eh bien,
très
écoutez,
contemporaine aussi. C'est...
Eh bien écoutez, par exemple, là vous venez de parler, si on...
Maintenant vous allez vous taire.
Donc mettons, faisons un grand bruit, bon je ne sais pas, on va pas crier dans le micro, bon, mais... Voilà. Et vous faites silence. Et vous laissez ce bruit pénétrer en vous le plus longtemps possible, voilà, en accueillant simplement. Donc c'est réapprendre à accueillir, réapprendre à recevoir. Ça c'est vrai pour les sons, pour la vue, c'est pareil. Vous regardez un objet, vous fermez les yeux et vous laissez cet objet vous imprimer de l'intérieur, mais en étant concentré là-dessus.
Pareil pour le toucher.
Pareil pour le toucher.
Avoir les pieds bien au sol.
Exactement.
Toucher un, je sais pas, un arbre.
Quelque chose de rugueux et vous gardez la sensation le plus longtemps possible dans la main. Ça, ce sont des exercices que propose le docteur Vitose, réceptivité qui vous réapprenne à recevoir, à accueillir. Alors, ce qui est important de prendre conscience, c'est que la vie de prière, qu'est-ce que c'est ? La vie relationnelle avec le Seigneur, qu'est-ce que c'est ?
C'est ce que j'allais vous dire, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans ?
C'est... Alors, c'est tout de même important, parce que...
On espère. C'est...
on est fait pour vivre cette vie relationnelle avec le Seigneur et avec l'autre, et avec moi-même aussi, hein, voilà, avec tout un chacun. Or, entrer en relation avec l'autre, ça veut dire accueillir l'autre, le recevoir tel qu'il est. Or, je suis parfois tellement encombré par une multitude de pensées, de préoccupations, que je ne fais même pas attention à l'autre. L'autre peut être à côté de moi, et puis finalement, je peux passer à côté sans trop m'en rendre compte.
On est comme en soi, c'est ça c'est...
Voilà, exactement. Si on est encombré en soi, ben, on aura beaucoup de mal à percevoir ce qui m'arrive, la personne qui est là, dans son intégralité, dans sa dignité. Voilà. Et donc... Les exercices que propose le docteur Vitose nous apprennent à accueillir, à recevoir. Au cours d'une retraite, on propose une rencontre avec le Seigneur. Comment pouvez-vous le rencontrer, le retrouver, si vous êtes terriblement encombré, si vous ne pouvez plus accueillir ? Or, le Seigneur se donne à nous, vous avez évoqué l'instant présent, il se donne à nous dans l'instant présent. C'est ce que dit Thérèse d'Avila, hein, qui a l'instant présent à tout, car qui a l'instant présent à Dieu.
Alors, justement, on va faire une transition avec la deuxième proposition que je vous demandais de développer pour prolonger peut-être donc ce qu'a introduit quand même Michel Martin Prével, laissant entendre que en fait toute vie charismatique est précédée par l'habitude aussi d'une certaine prière. Mettez-vous donc à la place probablement de ceux qui viennent, donc ça sera facile pour vous dans votre lieu de retraite, de tous ces pratiquants, on va dire occasionnels, donc qui on va dire se tournent vers l'Église à l'occasion des grandes fêtes, qui ont peut-être l'habitude en fait déjà d'une forme de solitude, de moments de silence, de méditation pleine conscience, puisque c'est très à la mode. Ils ne peuvent pas venir à Notre-Dame de la Cépède, mais on espère qu'ils seront nombreux, comment les aider à faire un pas dans la prière chrétienne ? Est-ce que ça passe par quelque part ces actes de présence que vous décrivez ?
Voilà. Donc ces actes de présence, hein, ces actes conscients qu'on peut poser, ces petits exercices de réceptivité aident à rentrer dans la prière. C'est-à-dire que je me dispose à accueillir et à recevoir.
Donc déjà, on peut se mettre quoi à l'intérieur ou dans la nature ?
Alors exactement, ça peut être dans la nature, ça peut être en marchant, etc. Mais il vaut mieux d'abord se poser, s'asseoir, donc avoir le corps bien détendu dans ce sens, s'asseoir, et puis commencer par se recueillir soi-même. Comment est-ce qu'on peut se recueillir soi-même sans prenant conscience de ce que l'on est ? Or, on est dans un environnement donné. Donc, fermer les yeux et écouter. On commence par écouter les bruits qui viennent et on les accueille, simplement, sans les juger, sans les analyser. Bon. Et puis ensuite, ça peut être la respiration. Vous accueillez votre respiration telle qu'elle est. Vous prenez conscience de cette respiration. Puis ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux bien simplement, regarder le lieu où vous êtes. Il s'agit d'accueillir, pas d'analyser, mais d'accueillir. Eh bien, dans ces petits exercices...
Donc déjà, être présent et être présent à soi-même, vous entendre.
Voilà, être présent à soi-même. Et cette présence à soi-même commence par l'accueil de l'environnement. Et à partir de là aussi, l'accueil de soi-même, les exercices de réceptivité. Par exemple, le contact du siège où vous êtes assis, du banc dans la nature où vous êtes assis, donc le contact avec les cuisses, avec le dos.
Et alors comment on passe à la prière chrétienne après ? C'est-à-dire, on est présent à soi-même ?
Voilà, à partir du moment où vous êtes recueilli, vous êtes présent à vous-même, vous entrez ensuite dans une relation. Il ne faut pas oublier que le Seigneur, lui, est déjà là. Vous êtes ailleurs, mais le Seigneur nous accompagne. Il est présent à chaque instant de notre vie.
Mais alors, quand on y croit plus ou moins...
Eh bien, il faut en faire l'expérience. Quand on y croit plus ou moins, il faut sauter dans le grand bain, comme dans la piscine, pour apprendre à nager. C'est-à-dire qu'on prend conscience que le Seigneur est là. C'est un acte de foi. Il nous a dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Donc, on se le dit, on se le répète, ou on lit des passages de l'Écriture qui l'affirme, c'est ça ?
Les passages d'Écriture peuvent être utiles parce que ça nous permet d'entrer en relation avec lui. Il se donne aussi par sa parole qu'on va lire. Voyez, mais comme il est l'Emmanuel, il est toujours avec nous, mais nous, on est ailleurs. Donc, ces petits exercices de remise en présence, ça veut dire qu'on est présent. On est présent à celui qui est le présent par excellence et qui se donne à moi à chaque instant de la journée. Donc, je me remets en sa présence. La prière, c'est ça. Ce n'est pas d'abord me mettre en présence de moi-même, c'est me mettre en présence de l'autre.
Alors, qu'est-ce qui est différent avec la pratique de la méditation, on va dire, de plus en plus généralisée, je vais y arriver, chez les Français, voire avec la méditation pleine conscience ?
Alors, le problème de la méditation de pleine conscience, je dis problème, parce que, bon, malgré tout, ça le vend en poupe, mais il y a tout de même un grand risque, c'est que la méditation de pleine conscience propose une forme de distanciation, on peut dire, par rapport à ce qui nous entoure. Voilà, on prend une distance par rapport aux émotions, par rapport, voilà, on les accueille, etc.
Ça a du bon, en partie.
Alors, ça a du bon, ça peut avoir du bon, parce que si on a une problématique anxieuse, par exemple, en prenant de la distance, on sera moins anxieux, on sera plus serein, etc. Mais en prenant cette distance, ça c'est une première étape, bon, là, il n'y a pas de problème, mais on en arrive aussi à prendre une forme de distance avec son je personnel, avec ce que l'on est fondamentalement. Et on s'imagine que là, on va trouver l'épanouissement, un épanouissement qui va durer. Pas du tout, parce que les problèmes demeurent. et les problèmes, on les retrouve après. La différence avec la prière chrétienne, c'est que la prière chrétienne nous invite à rentrer en relation avec le Seigneur, tandis que la méditation de pleine conscience nous invite à entrer en relation avec nous-mêmes, mais en fait, d'une certaine manière, ce n'est pas une vraie relation, parce que dans cette...
Parce qu'on est tout seul.
Comment ?
Parce qu'on est tout seul.
Parce qu'on est tout seul, et puis, donc derrière, il y a tout de même un fond religieux qui vient de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, etc., et qui fait que le divin, parce qu'ils vont dire, on entre en relation avec Dieu, pas du tout. Le divin, pour eux, c'est le cosmos, c'est le tout impersonnel, c'est pas une personne. Pour nous, chrétiens, c'est une relation avec une personne. Et c'est ça, et ça change tout.
Et ben voilà, ça c'est les retraites, on va dire, du foyer de charité, avec donc ce coup de zoom sur cette retraite Vitose. C'est donc du 9 au 15 août, 9 au 15 août, J'aime donc je suis, retraite accompagnée. Pour retrouver cette retraite et les autres retraites proposées à l'occasion de cet été, un site internet lacepede.foyerdecharité.fr. On fait une deuxième pause et puis on va retrouver Flore Millet pour le sanctuaire de Rocamadour et parler, on va dire, du grand public, de tous ces Français qui sont des chercheurs de sens ou de Dieu, qui marchent, qui font du tourisme, qui parfois tombent à Rocamadour. Et on va voir comment vous essayez de les accompagner.
Radio Présence à Pamiers 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Été 2020, du SPI et du local, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient par hasard, Flore Millet, prêtre et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, Dominique Bostine, lui-même prêtre et responsable donc d'un lieu de retraite spirituelle Notre-Dame de Lacépède, et Michel Martin-Prével, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes. Flore Millet, on vous a retrouvé, et c'est tant mieux. Charge à vous donc de nous parler un peu de Rocamadour. Alors, quand on se prend sur les sites des offices du tourisme du Lot ou ailleurs, on tombe d'abord sur le fait que Rocamadour fait partie des plus beaux villages de France, qu'il est, alors je ne sais pas si c'est toute la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, entre autres donc pour son sanctuaire. Faites-nous, on va dire, une visite en drone pour commencer rapidement.
Alors, le sanctuaire de Rocamadour, c'est d'abord effectivement un sanctuaire qui est mis au milieu d'une vallée, accroché dans une falaise, sur une falaise, dans un canyon, là, le canyon de l'Alzou, et dans cette falaise, au milieu de cette falaise, donc au creux d'un rocher, il y avait, voilà, plusieurs siècles, un petit lieu de culte. Il est attesté à partir du 5e siècle, mais on ne sait pas exactement quelle est l'origine. Dans ce petit lieu de culte où on vient de toute l'Europe pour se confier, pour prier, eh bien, il y a une petite vierge de 70 cm de haut en bois. Et cette vierge est assise, c'est une vierge noire. Elle a l'enfant Jésus sur les genoux et elle veut accueillir chacun de nous, un petit peu comme une maman qui voilà, veut accueillir tous ceux qui viennent, qu'ils soient chrétiens, non-chrétiens, touristes, par hasard qui tombent là, ou au contraire qui cheminent exprès pour venir à Rocamadour. Déjà, depuis des siècles, c'est comme cela. Et encore aujourd'hui, cela s'est amplifié parce que, eh bien, peu de personnes qui viennent à Rocamadour savent qu'ils viennent à un sanctuaire. Ils savent que c'est beau, mais ils ne savent pas qui ils vont rencontrer.
Alors si on continue la description un tout petit peu plus, donc c'est donc dans le Haut-Quercy, 150 mètres au-dessus de la vallée de l'Alzou. Donc il y a un grand escalier. Et alors là, on arrive, il paraît qu'en haut, à lire l'office du tourisme, il y a une chapelle miraculeuse et 7 autres chapelles. Alors vous n'allez pas nous faire toute la visite, mais imaginons, on est touriste, on commence par ce grand escalier, la plupart donc le montent. Je sais qu'on peut aussi descendre, mais bon, on va choisir cette entrée. À quoi faut-il s'attendre quand on a fini de monter cette escalier?
Alors, ce grand escalier a été construit au XIIe siècle par les moines lorsqu'ils construisent le sanctuaire, parce que jusque-là, on arrivait par des chemins escarpés le long de la falaise. Donc, on monte le grand escalier, on arrive sur les parvis. Lorsqu'on arrive sur les parvis, on est obligé, si on veut voir le ciel, de lever la tête, hein, le sanctuaire de Rocamadour et le sanctuaire de l'Espérance. Et là, on voit tout autour de nous un certain nombre de chapelles. Nous avons en face de nous la basilique, cette grande église qui a été construite pour accueillir le maximum de pèlerins. Sur notre droite, nous avons trois chapelles, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, la chapelle Saint-Blaise, la chapelle Sainte-Anne. Sur notre gauche, nous avons la chapelle miraculeuse ou la chapelle de la Vierge Noire. Et enfin, tout en haut, au-dessus de nos têtes, nous avons Saint-Michel, la chapelle qui domine sur tout le sanctuaire. Si nous voulons aller tout au fond du sanctuaire, le lieu de où il y a le plus de recueillement, si je puis dire, il y a aussi la chapelle, la crypte Saint-Amadour, voilà, qui est juste sous la basilique.
Donc on devine que c'est un dédale, en tout cas quand on y va pour la première fois, c'est vrai qu'on a l'impression, je pense aux plus jeunes, hein, on peut y aller en famille, de partir dans une forme d'aventure. Hein. Le sanctuaire de Rocamadour, c'est aussi donc sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, sauf erreur de ma part. Dites-nous, qui vient au sanctuaire? Vous disiez, la plupart en fait ne savent pas qu'ils viennent dans un sanctuaire. Est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns, par exemple ceux qui font le pèlerinage de Saint-Jacques, qui savent que c'est un lieu religieux ou qui viennent en partie pour ça?
Alors bien sûr, la plupart des gens qui viennent ici, on nous dit qu'il y a 1 800 000 visiteurs par an à Rocamadour, la plupart, 98%, viennent pour des raisons de beauté, des raisons touristiques, et même dans ces 98%, il y en a plus de 50% qui ne savent même pas qu'il y a un lieu de religieux. Certains le savent, mais d'autres, la plupart ne le savent pas. Et donc, après, bien sûr, il y a tous ceux qui viennent parce qu'ils sont attirés par la beauté du lieu, parce qu'ils veulent s'y recueillir, parce qu'ils savent que Marie est une maman et qu'ils ont besoin de venir se confier à elle, et que ce soit des gens des alentours de Rocamadour ou qui viennent un petit peu de partout, de toute l'Europe. Et puis enfin, bien sûr, il y a ceux qui viennent, comme vous le disiez, à pied. Nous sommes sur une des variantes du chemin de Saint-Jacques, de la route du Puy.
C'est combien? Combien de pèlerins, Florent Millet, qui passent par an à Rocamadour?
Oh, c'est pas énorme. En pèlerin à pied sur les chemins de Saint-Jacques, je pense que on doit tourner autour de d'une dizaine de milliers à peu près. C'est pas énorme parce que la route la plus prise, c'est celle qui passe de Figeac directement sur Cahors. Alors que nous, il faut choisir de faire 3 jours de plus de marche. Donc, ça demande un effort, mais on est récompensé quand on y arrive.
Alors, Florent Millet, comment est-ce que vous essayez d'accueillir tous ces gens? Vous disiez 98% des gens qui viennent, au début, viennent pour des raisons culturelles. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qu'on peut y trouver pour commencer des visites guidées, c'est ça?
Alors oui, il y a plusieurs choses. Il y a ce que l'on fait pendant l'année, et puis il y a ce que l'on fait pendant l'été. Pendant l'année, là, il y a la période plus creuse où c'est beaucoup plus calme, et puis ensuite, on a mis en place toute une équipe de paroissiens qui est là pour pouvoir accueillir sur le sanctuaire dans la journée, voilà, ne serait-ce que pour enseigner, pour donner des petits éléments de compréhension du sanctuaire, historique, etc. Et puis, nous avons des guides qui chaque jour font deux visites, une le matin et l'après-midi, qui sont des visites gratuites du sanctuaire, pour pouvoir en même temps découvrir bien sûr la beauté du lieu et en même temps découvrir à quoi il sert ce lieu, pour qui il est. Et voilà, c'est toute une catéchèse. Alors cela se fait avec des personnes des environs de Rocamadour pendant toute l'année, et l'été, nous mettons le paquet, puisque c'est là où il y a le plus de tourisme. Et donc, on accueille beaucoup de jeunes, de 18 ans à 30 ans, qui viennent comme bénévoles à Rocamadour pour pouvoir accueillir. Alors, il y a bien sûr l'accueil, ne serait-ce qu'en offrant un verre d'eau, il y a l'accueil en donnant des renseignements, il y a l'accueil étant là pour animer aussi toutes les liturgies, puisque chaque jour, l'intégralité de la liturgie des heures est proposée, les temps d'adoration sont proposés toutes les après-midi, le chapelet est proposé, il y a 3 messes par jour sur le sanctuaire.
Donc une offre spirituelle, on va dire, conséquente, et donc les jeunes, on va dire, qui sont aussi en première ligne pour accueillir tous ces touristes. Si vous permettez, je vous coupe parce que je vois le temps qui passe. Si on ne se sent pas d'aller faire une retraite spirituelle cet été, Florent Millet, est-ce que déjà de marcher, d'aller visiter ces lieux, ça peut être un premier pas, si on est, on va dire, un chercheur, un peu intimidé face à la question de Dieu, marcher, est-ce déjà commencé à prier d'une certaine manière?
Eh bien, comme le disait le père Bostine tout à l'heure, à travers la nature déjà, on commence par prenant conscience de cette beauté de la nature qui est là, hein, qui nous est donnée. Eh bien, on commence déjà à s'approcher de Dieu, effectivement. Donc, du coup, moi, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à sortir de chez elles, à aller à la rencontre de Dieu à travers la nature, à travers aussi les autres personnes, parce qu'il y a bien sûr la nature qui est très belle, mais sur le chemin, on fait des rencontres merveilleuses, des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens qui cherchent, et des gens qui arrivent avec un parcours très très long, des jeunes, des vieux, une rencontre qui est assez extraordinaire, et puis aussi qui passe bien sûr par des lieux où on va pouvoir se poser quelques heures pour se ressourcer, pour tout simplement être là. Hein, je suis étonné de toutes ces personnes qui viennent et qui se posent dans les chapelles de Rocamadour, rien que pour être là, surtout au moment les moins fréquentés du sanctuaire, parce que dans la journée, ça bourdonne de partout, mais le matin tôt ou le soir, il y a toujours des gens qui sont là pour profiter du lieu et se laisser aimer, tout simplement, vous voyez. Ça, c'est la grâce du lieu. On a devant une maman qui est là pour nous dire « je t'aime, laisse-toi aimer », et c'est ça qui est merveilleux.
Eh ben merci beaucoup d'être venu chacun, nous prendre par la main, quelle que soit, on va dire, notre situation ou nos attentes à l'occasion de cet été. Il n'y a pas de niveau, on va dire, dans la vie spirituelle, hein, en tout cas, il faut probablement s'y mettre toujours un jour. Donc Sanctuaire de Rocamadour, c'est tout simplement, vous tapez Sanctuaire de Rocamadour sur un site internet, sur un moteur de recherche, et vous trouverez tous les détails. On peut rappeler donc que le 15 août, il y aura donc des grandes festivités à l'occasion donc de la fête de l'Assomption, procession, flambeau, messe solennelle, office et concert. Et puis le foyer de charité de Notre-Dame de la Cépède, lacepede.foyerdecharité.fr, et le pèlerinage des béatitudes, pelebeatitudes.org. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.